Revenons à la fin de la messe. On s'était arrêté à la communion la dernière fois et on va voir rapidement, de fait, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, les derniers rites qu'il y a à la messe. Et puis après, ou dès maintenant, vous pourrez poser toutes vos questions sur le sujet d'aujourd'hui ou même sur la liturgie en général. On terminera comme ça avec une petite séance de questions-réponses. Après avoir communié le prêtre et les fidèles, il y a le rite des ablutions, qui est un rite important dans lequel le prêtre va purifier tout ce qui a pu être en contact avec les saintes espèces, le corps ou le sang du Christ. Il va d'abord purifier le calice en versant du vin dedans afin de diluer le sang qui reste. Et ensuite, il va boire cela pour purifier sa bouche. Hein, ça, c'est aussi quelque chose d'important, qui se retrouve dans d'autres rites d'ailleurs. Rite des ordinations, par exemple, après avoir communié, les ordinants vont boire du vin dans un calice pour purifier la bouche. Donc, rite de purification, en récitant une magnifique prière. Quod ore sum simus, ce que notre bouche a reçu, Seigneur, que notre âme l'accueille avec pureté, et que ce don fait dans cette vie nous soit un remède pour la vie éternelle. Je trouve cette prière magnifique et elle pourrait vraiment servir pour nous de prière d'action de grâce. Là, il y a deux prières, il y en a une qui va venir juste après, qui, je crois qu'on peut aller chercher pour faire notre action de grâce, au lieu d'aller chercher d'autres prières. Celles que la liturgie met dans nos missels sont très belles. Il y a ce parallèle entre la communion sacramentelle, ce que notre bouche a reçu, et la communion spirituelle, que notre âme l'accueille avec pureté. Vraiment cette idée qu'on arrive à passer d'un simple geste sacramentel, de recevoir le corps du Christ dans notre bouche, dans notre corps, à son effet, qui est la réception de la présence divine dans notre âme. Vous savez, saint Thomas distingue bien les deux et dit on peut communier sacramentellement sans qu'il y ait d'effet pour notre âme, si notre âme n'est pas préparée, ou pire, si elle est en état de péché mortel. Et donc nous, ce qu'on va demander, c'est que ce signe qu'on vient de recevoir, ce que notre bouche a reçu, eh bien maintenant, il faut que ça rentre dans notre âme et que notre âme l'accueille avec pureté. Et que ce don fait dans cette vie, parce que c'est un don fait à un moment, hein, aujourd'hui, à telle heure, j'ai reçu le don du corps du Christ, et ben le risque, c'est que dans une heure, tout soit oublié et que le don ayant disparu, puisque l'hostie se dissout dans notre corps, eh bien on oublie qu'on a reçu ce don. Donc que ce don fait dans cette vie nous soit un remède pour la vie éternelle. Donc c'est tout le jeu dans cette prière magnifique entre recevoir et garder. Nous recevons tous l'hostie quand nous communions, nous la recevons dans notre corps, mais l'important c'est de la garder. Hein. Ce que notre bouche a reçu, que notre âme la conserve. Voilà. Et c'est ce jeu qui est magnifique dans cette belle prière. Ensuite, le prêtre va se purifier les doigts. Vous savez que depuis la consécration, depuis qu'il a touché l'hostie, qui est le corps du Christ, le prêtre a gardé les doigts joints pour éviter que des parcelles ne soient perdues. Et pendant toute la cérémonie, il les garde ainsi, il ne prend pas les pages du missel avec ses deux doigts, mais avec d'autres doigts, pour garder ses doigts joints. Et ça, ça a malheureusement disparu du nouveau rite, c'est plus obligatoire. Et c'est très dommage parce que déjà, très matériellement, quand on prend l'hostie, la grande hostie, quand on la fractionne surtout, il y a des parcelles blanches sur les doigts. On les voit à l'œil nu. Et aller ensuite prendre les pages du missel avec nos deux doigts, c'est risquer de mettre des parcelles un peu partout sans faire attention au respect qu'on doit avoir pour ces parcelles. Donc le prêtre garde les doigts joints jusqu'après la communion et ensuite il les met au-dessus du calice. Et le servant va verser du vin puis de l'eau sur ses doigts afin de les purifier. Ensuite, il prend le purificatoire, il essuie ses doigts et il peut enfin les détacher. C'est un très beau geste. Et enfin, il boit le vin et l'eau qui a servi aux purifications des doigts pour ne rien perdre du tout de cette eau des purifications. Et il récite une très belle prière encore. Votre corps que j'ai mangé et votre sang que j'ai bu, Seigneur, qu'ils adhèrent à mes entrailles et accordez que le péché ne laisse aucune tache en moi quand je viens d'être restauré par ce sacrement si pur et si saint. Vous qui vivez et régnez dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Hein, cette très belle expression de qu'ils adhèrent à mes entrailles, que le corps et le sang que j'ai bu adhèrent à mes entrailles. C'est très sensible comme expression. Hein, on a reçu le corps, on a bu le sang, en tout cas le prêtre, et ça descend en nous et on demande à ce que ça adhère à nos entrailles, en sachant que les entrailles, dans l'Écriture sainte, c'est le lieu de l'amour. C'est le lieu de l'amour. Hein, il est dit à plusieurs reprises dans l'Évangile que le Christ est saisi de compassion dans ses entrailles. Il est dit aussi, c'est saint Paul qui dit à ses brebis, à ses fidèles, vous êtes tous, je vous aime par les entrailles. Et c'est extrêmement fort, c'est une expression de l'Ancien Testament qui dessine la force de l'amour viscéral, de l'amour qu'une mère a pour son enfant. Et donc c'est de cet amour-là que Dieu nous aime, d'un amour viscéral qui vient des entrailles. Et ben, nous, quand on dit « Seigneur, adhérez à mes entrailles », ça veut dire ben, voilà, que cet amour reste en moi, cet amour inconditionnel qu'une mère a pour son enfant, eh bien que moi je l'éprouve envers vous, tout simplement. Que le corps et le sang adhèrent à mes entrailles, que je vous aime, tout simplement, Seigneur. Voilà. Donc ça, c'est les deux belles prières que le prêtre dit après la communion, et je vous encourage à les lire, parce qu'elles sont à les utiliser pour votre action de grâce après la communion. Ensuite, le prêtre lit le chant de communion, qui est un chant que normalement la scola chante pendant le rite de la communion, et ensuite, il va lire la post-communion, Dominus obiscum, il va au missel, et il lit la post-communion. Cette post-communion, je vous invite, là encore, à la lire. Très souvent, on est un peu plongé dans son action de grâce, et c'est en latin, on ne comprend pas tout, alors que la post-communion, elle concerne vraiment les fidèles. Autant il y a des prières dans la messe qui ne concernent que le prêtre, qu'il dit pour lui et qu'il dit à Dieu, autant la post-communion, le prêtre parle en notre nom à tous et exprime l'action de grâce suite à la communion reçue, en lien à chaque fois avec le thème de la fête ou de la messe célébrée. Et ça décrit les effets de la communion en nous, les effets de l'unité du corps du Christ, où ça décrit le ciel. Donc c'est des très très belles prières, très anciennes aussi, et je vous invite, hein, quand le prêtre la lit, à la lire avec lui, que ça vienne aussi de vous, parce que le prêtre parle en votre nom à ce moment-là. Voilà. Après la post-communion, le prêtre revient au milieu de l'autel, Dominus obiscum, ite missa est. On avait expliqué déjà le sens de ce ite missa est, qui veut dire littéralement « aller, c'est le renvoi ». C'était l'expression que le diacre utilisait à la fin de la messe, soit des catéchumènes, soit des fidèles, pour signifier tout simplement que c'était la fin. Et on a gardé cette expression « ite missa est »,« aller, c'est le renvoi ». Et on a rajouté à cette expression une ambiance très souvent de joie. On exprime la joie à travers cette ite missa est, c'est pour ça que le diacre le chante sur des tons, le même ton que le Kyrie, et que nous, on répond, les fidèles répondent, Deo gratias, sur le même ton. Hein, vous entendrez le magnifique ite missa est de Pâques, de la fête de Pâques, ite missa est, alléluia, alléluia, on n'a pas dit alléluia depuis le début du carême, on n'a pas dit non plus ite missa est, normalement, alors ça a changé dans la nouvelle semaine sainte, mais auparavant, on disait benedicamus domino, et non pas ite missa est pendant tout le carême. Et donc on n'avait pas entendu ite missa est de tout le carême, ni alléluia, et lorsque le diacre, à la fin de la messe de Pâques, à la fin de la vigile, très longue et très belle, se tourne à la fidèle et chante « Ite missa est, alléluia, alléluia ». C'est magnifique et les fidèles répondent plein d'entrain « Deo gratias, alléluia, alléluia ». Donc c'est un chant d'allégresse, c'est devenu quand même un chant d'allégresse maintenant, à la fin de la messe. Après, Le prêtre se retourne et lit une dernière prière qui est un résumé de toute la messe. C'est la prière du Placeat, qui a disparu malheureusement du nouveau rite, là encore, et qui est vraiment très très belle, puisqu'elle résume toute l'idée sacrificielle de la messe. Je vous la lis. Agréez, l'agrément, recevez comme agréable, agréez, Trinité Sainte, l'hommage de votre serviteur, ce sacrifice que malgré mon indignité, j'ai présenté au regard de votre majesté, rendez-le digne de vous plaire et capable, par l'effet de votre miséricorde, d'attirer votre faveur sur moi-même et sur tous ceux pour qui je l'ai offert. Vous voyez, cette simple prière résume tout ce qu'on a vu sur le sacrifice depuis le début de l'année, voire même depuis l'an dernier, quand on parlait déjà de la vertu de religion. On s'adresse à la Trinité, parce que le sacrifice, c'est le rapport de la créature au Créateur, donc de moi à la Trinité. On rappelle que c'est le sacrifice de l'homme qui s'adresse à la Trinité tout entière, tout particulièrement au Père, c'est vrai, mais à la Trinité tout entière. Mon sacrifice à moi, il s'adresse à la Trinité tout entière. Donc c'est vers elle que je me tourne. Agréez l'hommage de votre serviteur, en latin, obsequium servitutis. Ces mots évoquent la vertu de religion. Obsequium, ça veut dire soumission. C'est des thèmes qu'on avait vus l'an dernier, qui sont essentiels de comprendre que dans la religion chrétienne, certes, il y a une relation d'amour avec Dieu qui est principale, qui est primordiale, mais il y a aussi une relation de soumission, de révérence, de respect par rapport à la transcendance de Dieu. Et c'est pour ça que le prêtre dit cette prière du Placeat, totalement incliné en signe de cette soumission, cet esprit de service face à la majesté divine, l'hommage de votre serviteur. Et que ce sacrifice, que malgré mon indignité, mes péchés, j'ai présenté au regard de votre majesté, rendez-le digne de vous plaire. Voilà le premier effet du sacrifice, l'agrément divin, la gloire de Dieu. C'est la première chose qu'on demande, que ce sacrifice vous honore, tout simplement. Parce que la première fin du sacrifice de la messe, c'est l'hommage de Dieu. Donc on le dit en premier. Et ensuite, par l'effet de votre miséricorde, que ce sacrifice attire votre faveur sur moi-même et sur tous ceux à qui je l'ai offert. Donc deuxième effet du sacrifice, après l'hommage, c'est le salut du monde. Pour votre gloire et le salut du monde. Et on résume ainsi toute la dynamique sacrificielle de la messe dans un très très beau résumé de toute la messe. Il est bien triste que cette prière ait disparu du nouveau rite. Suit ensuite la bénédiction finale, pas besoin de commenter énormément, c'est un sacramental, c'est pas un sacrement, mais c'est un signe sensible, le prêtre fait une croix, il dit une parole, qui nous dispose à la sainteté, qui fait descendre en nous des grâces actuelles, si nous y sommes bien disposés. Donc cette bénédiction, on la reçoit avec révérence à genoux, en se signant en même temps que le prêtre nous signe, et on saute cette bénédiction finale à différents moments, aux messes des défunts notamment. Elle n'est pas prévue. Et enfin, le dernier évangile vient conclure tout le rite de la messe. C'est aussi un sacramental, le dernier évangile. C'est-à-dire qu'il faut l'écouter avec attention et qu'on peut en puiser des grâces particulières. C'est pour ça qu'il a été rajouté. Il a été rajouté à la demande des fidèles, figurez-vous. Les prêtres auparavant disaient le dernier évangile comme dévotion privée, souvent en rentrant après la messe, parce que le dernier évangile, alors j'ai pas expliqué, pardon, le dernier évangile c'est le prologue de Saint Jean, c'est les premiers versets de l'évangile de Saint Jean, et ils ont été considérés très tôt comme, ça a été considéré comme un texte extraordinaire parce qu'il l'est, et avec une force particulière. Et du coup, les prêtres aimaient beaucoup réciter pour eux-mêmes ce prologue de Saint Jean, donc le dernier évangile, en rentrant à la sacristie. Et les fidèles ont dit, nous, on veut l'écouter aussi, on veut l'entendre, donc s'il vous plaît, rajoutez-le à la messe. Et du coup, il est maintenant à la fin de chaque messe, c'est le dernier évangile, parce que c'est le deuxième évangile, et c'est du coup le début de l'évangile de Saint Jean. Je ne vais pas vous le commenter en entier, parce que ce serait trop long, c'est un texte d'une profondeur extraordinaire, qui est en trois grandes parties. Au début, il y a la description de la place du Verbe dans le sein du Père. Au commencement était le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu, et avec cela, on rajoute ce que le Verbe a fait, c'est-à-dire la création. Ensuite, on nous parle, pendant de longs versets, de la place de Saint Jean. Alors faites bien attention, c'est le prologue de Saint Jean, l'évangéliste, mais le Jean dont on est question dans le dernier évangile, dans le prologue de Saint Jean, c'est Jean-Baptiste. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ceci vient en témoignage. On parle de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, le dernier des prophètes, le plus grand des enfants des hommes, hein, nous dit Jésus, donc un saint, une grande renommée, et qui fait témoignage du Verbe. Et ensuite, on nous parle de la venue du Verbe dans sa création par l'incarnation, avec ce verset central, et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous, durant lequel on se met à genoux, adorant le mystère de l'incarnation. Si on voulait essayer de donner quelques pistes pour comprendre le dernier évangile, d'abord il y a un parallèle saisissant entre donc le dernier évangile et le récit de la Genèse 1:1, c'est-à-dire le récit de la création. Pourquoi? Parce que la descente du Verbe dans la chair, le Verbe s'incarnant, c'est le début d'une recréation. Il y a eu la première création et il y a la recréation par le Verbe se faisant chair. Et donc Saint Jean, très habilement, fait un parallèle entre les deux. D'ailleurs, il commence son évangile par les mêmes mots qui ont commencé le livre de la Genèse, au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans la Genèse, au commencement était le Verbe pour le prologue de Saint Jean. L'idée de nous dire, attention, je fais un parallèle entre les deux, c'est bien de quoi il est question. Et donc, dans toute cette première partie, il nous montre la place du Verbe auprès de Dieu, à travers lequel tout a été créé. Et en effet, quand on reprend la Genèse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, et Dieu dit que la lumière soit. Et ce, et Dieu dit, fait écho au Verbe de Dieu, à la parole de Dieu par laquelle il crée les mondes. Et la parole de Dieu, c'est le Verbe, c'est le Fils. Hein, déjà dans la Genèse, il y avait une sorte de manifestation de la Trinité très discrète. Hein. Au commencement, Dieu créa le ciel, ça pour le Père. L'Esprit était au-dessus des eaux, pour le Saint-Esprit. Et Dieu dit que la lumière soit pour le Verbe. La Trinité était déjà inscrite dans le récit de la Genèse. Eh bien, c'est repris par le prologue de Saint Jean de manière plus explicite, puisqu'il nous dit que le Verbe était auprès de Dieu, et c'est par lui que tout a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. La place du Verbe dans le plan de la création. Il y a aussi tout un parallèle dans le prologue de Saint Jean entre la lumière et les ténèbres, et c'est un parallèle avec ce qu'il y a dans le récit de la Genèse entre la lumière et les ténèbres également. Hein, Dieu qui crée la lumière, qui illumine les ténèbres. Deux, trois petites choses encore sur le dernier évangile. On pourrait le découper en trois, encore une fois, avec les trois missions du Verbe. Dans le dernier évangile, on essaye de se centrer sur le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, et on regarde tout ce qu'il a fait depuis le début. Première mission du Verbe, c'est la création. Et donc c'est le début du prologue. Deuxième mission du Verbe, c'est l'incarnation, le Verbe qui se fait chair. Troisième mission du Verbe, c'est la sanctification. Le Verbe descend pour créer, le Verbe descend pour s'incarner, le Verbe descend pour nous sanctifier, pour nous rendre fils dans le Fils. Hein? Nous avons été rendus fils de Dieu. Et de là découle... Voilà, donc ça, c'est une première idée dans le prologue de Saint Jean. Deuxième ternarité, si vous voulez, trois choses qui reviennent, c'est les trois filiations. On a d'abord la description de la filiation éternelle du Fils dans le Père. Le Verbe est le Fils du Père. La deuxième filiation, c'est la filiation naturelle de Jésus. Jésus qui devient fils d'homme en devenant fils de la Vierge Marie, la prie chère dans le sein de la Vierge Marie. Et la troisième filiation, la filiation spirituelle des hommes par l'incarnation, la naissance selon Dieu. On pourrait dire trois filiations, les trois naissances, si vous voulez. Naissance du Fils dans le Père, naissance de Jésus sur la terre, naissance de Jésus dans notre âme, et notre naissance pour devenir fils de Dieu à ceux qui l'ont connu, qui l'ont reconnu, qui sont nés ni de la chair ni du sang, mais par la volonté de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Il nous a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est extraordinaire, on avait déjà un petit peu commenté ça. Et par rapport à ces donc, trois missions, trois naissances, et à côté, trois refus. Dans le prologue de Saint Jean, le refus des ténèbres face à la lumière ne l'a pas reçu, le refus du monde face à Dieu, et le refus des siens, c'est-à-dire des chrétiens, et les siens ne l'ont pas reçu, face à sa présence. Et donc toute l'idée pour nous, c'est d'essayer de nous dire, ben voilà, est-ce que, contemplant cette naissance éternelle du Fils dans le Père, je m'inscris dans ce mouvement, qui est un mouvement d'économie extraordinaire, du Fils qui veut me rendre fils dans le Fils par l'Esprit, pour devenir fils du Père, et entrer ainsi dans le sein du Père, être adopté filialement par Dieu, puisque c'est ça, le grand destin de l'homme, c'est de devenir enfant de Dieu, d'être adopté par Dieu à travers la grâce et l'incarnation. Est-ce que j'accepte ce schéma-là, ce plan-là, ou est-ce qu'au contraire, je le refuse, et je suis de ceux qui refusent, qui restent dans les ténèbres, le monde, ou les siens qui ne l'ont pas reçu. Donc le dernier évangile nous met vraiment devant la question centrale de notre vocation, devenir enfant de Dieu ou rejeter Dieu. Il n'y a pas mieux pour résumer tout ce qu'on a essayé de vivre durant le Mysterium Fidei, le mystère de la messe, que de nous remettre devant cette destinée surnaturelle qui est de devenir enfant de Dieu. Voilà, voilà. Bon, c'était court. J'ai fini avec l'explication des rites et de la messe. À présent, si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser sur tous les sujets qui vous intéressent, enfin, plutôt la liturgie du coup quand même, hein. Soit la liturgie, soit la liturgie de la semaine sainte, soit le rite. Voilà, pendant que vous réfléchissez à quelques questions, si vous en avez, on a envoyé quelques-unes par message, donc je vais essayer d'y répondre pendant ce temps. N'hésitez pas à poser les vôtres. Alors, que me demande-t-on ? Pourquoi n'y a-t-il pas de baiser de paix le jeudi saint ? J'y ai répondu la semaine dernière, je crois. Il n'y a pas de baiser de paix le jeudi saint en souvenir du baiser de Judas. Hein ? Judas qui trahit son maître par un baiser. C'est par un baiser que tu me trahis. Eh bien, par honte de ce baiser, le jeudi saint, alors que c'est un jour quand même solennel, nous, il n'y a pas de baiser de paix liturgique ce jour-là. Pourquoi n'y a-t-il pas de baiser de paix à la messe des défunts ? C'est vrai, à la messe des défunts non plus, il n'y a pas de baiser de paix. Parce qu'autrefois, c'était une liturgie privée, et non pas une messe publique. Et partant de là, il y a certaines choses qu'on ne faisait pas, notamment, pas de paix, pas de communion à la messe des morts normalement, parce que c'était également un office privé, et pas de bénédiction finale à la messe des morts non plus, parce que c'est une liturgie privée. Pourquoi dit-on trois fois « Domine non sum dignus » ? Alors il est vrai qu'on dit trois fois « Domine non sum dignus » alors que dans le nouveau rite, on ne le dit plus qu'une seule fois. Alors, on l'a toujours dit trois fois, hein, c'est juste dans le nouveau rite qu'on a changé. Donc, la question serait plutôt, pourquoi est-ce que dans le nouveau rite, on ne le dit plus qu'une seule fois ? Cela dit, en effet, on le dit trois fois dans l'ancien rite, parce que c'est l'évocation de nos péchés. Dès qu'on parle de nos péchés dans la liturgie, on se frappe trois fois la poitrine. Par exemple, au confiteor, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Alanius Dei, quid olit peccata mundi, miserere nobis, dona nobis pacem. On se frappe trois fois la poitrine. Et là, dominum sum dignus, je suis conscient de mes fautes, et je me frappe du coup trois fois la poitrine. Pourquoi trois fois? Pour traditionnellement désigner les pensées, les paroles et les actions, qui sont les trois lieux traditionnels. On rajoute parfois les omissions. Dans le computer, d'ailleurs, on les rajoute. Mais traditionnellement, c'est pensée, parole, action. Donc, je regrette ces trois sources du péché. Mais trois fois, c'est aussi la Trinité. Hein, c'est pour ça qu'on répète souvent les choses trois fois. Et puis aussi, la répétition est pédagogique. Et donc, pour faire rentrer quelque chose en moi, quand j'ai un sentiment que je veux faire rentrer en moi, je le fais rentrer par une action que je répète. Et donc, je me frappe trois fois la poitrine. Pour mieux faire rentrer cette contrition, ce sentiment d'indignité que j'ai avant d'aller communier. Voilà. La clochette ici est sonnée au Domine non sum dignus pour avertir que ça va être la communion du prêtre, tout simplement. Hein, les clochettes à la messe sont là le plus souvent pour avertir les fidèles qu'il va se passer un moment important. Et donc, au début du sanctus, au sanctus, au début du canon, avant la consécration, en cugitur, pour dire attention, c'est bien de la consécration, au moment de l'élévation, pour que les fidèles regardent, à la fin du canon, parce que c'est la petite élévation qui est centrale, et là, au Domine sum dignus, pour dire c'est la communion qui commence. Voilà. On se signe au Benedictus qui venit dans le Sanctus. Oui, dans le Sanctus, Benedictus qui venit in nomine Domini. On se signe parce que c'est un chant à la Trinité, tout simplement. C'est le chant de gloire de la Trinité. Sanctus, Sanctus, Sanctus. On loue la Trinité et donc on se signe en honneur de la Trinité, mais aussi pour faire mémoire de la rédemption qu'on va assister puisque c'est la croix. Voilà. Autre question. J'espère que j'aurai le temps de regarder celle qui se passe là. Autre question. Sur la séance d'il y a 2 semaines pour la consécration, lorsque je parlais du récit de l'institution, j'ai dit qu'on passait à un mode narratif. Après avoir dit des prières, le prêtre passe à un mode narratif. C'est le récit de l'institution. C'est vrai que c'est l'expression consacrée pour cet aspect-là. C'est l'interprétation protestante de la nouvelle messe. C'est vrai aussi. Alors, je précise un peu. Il est vrai que dans le canon, après le Ancigitur, on passe à la partie où, au cui prédier, où on lit en fait le texte de l'évangile, celui-ci, la veille de sa passion, et donc on raconte quelque chose. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est narratif. Narratif. Seulement, il faut faire bien attention, il prit du pain, le rompit, le donna à ses apôtres en disant. Et là, après le en disant, dans la forme traditionnelle, on arrête le récit. Normalement, dans les missels, il y a 2 points à la ligne. Et là, on quitte le mode narratif pour passer au mode intimatif, c'est-à-dire qui ordonne. C'est plus simplement on raconte ce qui s'est passé, mais on proclame, on récite une parole sacrée, la parole de la consécration, donc c'est le mode intimatif, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc je dirais dans la forme traditionnelle, en effet on décrit un récit pour l'institution, mais dans ce récit on met à part les paroles de la consécration qui ne sont pas racontées dans un mode narratif, mais selon un mode intimatif. Et il est vrai que cela apparaît moins dans les missels après 69, où je crois, d'après une critique que j'ai entendue, qui me semble assez juste, la différence pour passer à la parole de la consécration n'est plus marquée comme cela l'était. Mais à vérifier là quand même, je ne vais pas vous dire de bêtises non plus. Voilà. Pour le pater, oui, j'ai dit la dernière fois que il y avait peut-être un texte de Pie XII qui autorisait qu'on puisse chanter le pater. Donc je n'avais pas trouvé à la messe traditionnelle hein, qu'on puisse chanter le pater avec le prêtre. on m'a trouvé le texte, et donc faites attention. En effet, il y a un texte de Pie XII qui autorise aux messes lues, et non pas aux messes chantées, que le pater soit lu, récité, par les fidèles en même temps que le célébrant, mais en latin seulement, et tous ajoutent Amen. C'est dans l'instruction De Musica Sacra, sur la musique sacrée et la liturgie, Pie XII, en 1958. Deux choses dessus. Déjà, vous voyez bien que ça ne concerne pas les messes chantées. Donc, en effet, il n'y a aucun texte qui, donc je crois, à moins qu'on en trouve un autre, mais là, j'ai cherché un peu, donc je n'ai pas trouvé, qui l'autorise pour la messe chantée, et encore moins pour la messe solennelle. Ça serait vraiment réservé aux messes lues, c'est-à-dire aux messes basses. Première chose. Et deuxième chose, il me semble que, malgré cela, cette modification n'est pas passée dans la réforme du missel en 1960. Je ne crois pas. Ce qui pose, du coup, une difficulté d'interprétation. Mais, soyons bien précis, il y a en effet une autorisation pour ceux qui le souhaitent, pour le prêtre qui le permet, parce que le prêtre peut le faire et peut ne pas le faire aussi, hein, c'est lui qui décide, c'est libre, peut faire que les fidèles récitent à une messe basse, à une messe non chantée, le pater avec lui. Voilà. Encore une question, c'est la dernière de celles qu'on m'avait envoyées. La prière eucharistique 1 est-elle la même chose que le canon romain? C'est ce que j'avais sous-entendu rapidement quand j'ai décrit le canon romain, donc de la messe traditionnelle, en vous disant bah, c'est les textes du canon romain, vous les retrouvez intégralement dans la prière eucharistique numéro 1 de la messe en français. Il faut que je sois un tout petit peu plus précis, je crois, je pense. Dans la prière eucharistique numéro 1, qui peut être donc récitée par le prêtre, qui ne l'est pas toujours, est-ce qu'elle l'est souvent, ça, je ne sais pas, je ne suis pas un habitué de la forme ordinaire, mais en tout cas, dans cette prière eucharistique numéro 1, contrairement au canon romain, les listes des saints, des apôtres, des martyrs sont facultatives, donc les prêtres peuvent les sauter. Et puis, il y a cet ajout que j'avais mentionné rapidement. Il y a cet ajout que sont l'acclamation après le canon, qui sert un peu d'anamnèse. « Il est grand le mystère de la foi, dit le prêtre, et la foule répond. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » Il y a deux autres formes possibles pour cette proclamation après la consécration. Alors, on me demande un peu que penser de cette insertion dans le canon. J'avais jamais trop réfléchi à la chose dans la mesure où nous, dans la forme traditionnelle, on dit Mysterium Fidei au sein des paroles de la consécration du sang, et dans la forme ordinaire, le Mysterium Fidei de Saint Paul hein, est décalé et est mis après. C'est pas, ça semble pas vraiment dramatique. Et que dit-on ? Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En fait, c'est un développement, ce passage-là, c'est un développement de l'épître de 1 Corinthiens 11, donc du récit de l'institution de chez Saint Paul, où après avoir raconté, bah, Jésus prit du pain et dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », Saint Paul rajoute « À chaque fois que nous buvons ce pain et buvons de cette coupe, mangeons ce pain et buvons de cette coupe, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc ça, c'est chez Saint Paul. Quand même, il utilise bien les termes de pain et de coupe. Donc il ne faudrait pas voir, je crois, il ne faudrait pas voir dans le pain et la coupe mentionnés dans la nouvelle messe une idée qu'on n'affirme plus la croyance de la présence réelle. Non, on prend un texte directement chez Saint Paul, qui se situe chez Saint Paul juste après le récit de la consécration, donc je ne pense pas que ce soit erroné. Je ne pense pas que ce soit erroné. Et puis on rappelle la mort, la résurrection, ce qui est en gros ce qu'on appelle aujourd'hui le kérigme, le mystère de Jésus mort et ressuscité, et c'est vrai que la messe, c'est quand même ça, le mystère de Jésus mort et ressuscité. Je ne pense pas que cette formule diminue la foi dans la présence réelle, si elle est bien comprise. Bon, après, c'est toujours une question de comment on la comprend, si elle est bien comprise, et ni dans la foi dans le fait que la messe, c'est le sacrifice du Christ. On parle quand même bien de la mort, juste après la consécration, mort et résurrection. Bah, c'est vrai que c'est quand même ça qui est signifié par la consécration. Je dirais, si une critique qu'on pourrait faire, c'est que en réalité, cette insertion casse complètement la dynamique du canon, je trouve, parce que le canon est adressé à Dieu le Père, uniquement, et que là, on se tourne vers tout d'un coup vers Jésus, et qu'on se met à parler à Jésus, pour ensuite reprendre et à parler avec Dieu le Père. Le canon a toujours été orienté uniquement vers Dieu le Père, et c'est là que je trouve curieux qu'on insère quelque chose qui s'adresse à Dieu le Fils. Voilà, qu'est-ce qui était derrière l'idée? C'était, honnêtement, on trouvait que les fidèles participaient pas assez à la messe, et donc du coup, on les fait participer en les faisant dire quelque chose dans le canon. Je ne sais pas exactement si ça se faisait dans les premiers temps. C'est là que je manque un peu de culture sur ce point-là. Il y a des choses à redire sur cette insertion, mais c'est peut-être pas là-dessus que je mènerai le combat pour défendre l'ancien rite et critiquer le nouveau. Ça me permet peut-être d'en profiter. Rapidement, avant de répondre aux questions qui ont été posées par Facebook, pour vous redonner un petit peu les grands axes de réflexion sur le nouveau rite. J'ai toujours dit que je n'étais pas à l'aise de critiquer le nouveau rite comme ça, de manière directe. Parce que je pense que pour le critiquer intelligemment, ce que je vais faire, il faut avoir un derrière bah, tout un argumentaire, avoir réfléchi en fait sur ce qu'est le sacrifice, ce qu'est la vertu de religion, ce qu'est le rapport à Dieu, la transcendance, et que sinon nos critiques tombent souvent un peu à l'eau. Et donc j'avais toujours dit que moi je ferais une critique uniquement après avoir développé sur la théologie du sacrifice et la théologie de la vertu de religion. Ce que j'ai fait du coup l'an dernier, cette année. Et donc nous arrivons au terme de cette réflexion sur la vertu de religion et sur le Saint-Sacrifice Saint-Sacrifice. Et donc ça me permet peut-être de vous résumer rapidement les points principaux de critique par rapport au nouveau rite que vous retrouverez hein, pour la plupart dans le bref examen critique du nouvel Ordo Missae. Donc pour ceux qui nous rejoignent là juste aujourd'hui, eh bien sachez que pour affirmer ce que je vais affirmer, il y a 10, 12, 15 heures peut-être de topo avant, de réflexion théologique sur ce qu'est le sacrifice pour mieux le mettre en avant, et puis de réflexion sur le rite. Je dis tout de suite avant de continuer que une chose qu'il faut regarder avant tout, c'est que pour la validité d'un sacrement, il faut matière, forme et intention. Donc il faut du pain et du vin, il faut les paroles de la consécration, il faut avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Choses qui, à mon avis, sont tout à fait réunies dans la messe en français comme dans la messe en latin, notamment parce que l'intention de faire ce que fait l'Église est quelque chose d'assez large, d'assez global. Et donc à partir du moment où le prêtre dit les paroles de la consécration, sa messe est valide. Et je crois qu'il faut prendre toute la mesure de ce qu'on dit quand on dit que la messe est valide. Ça veut dire que c'est le sacrifice du Christ qui se renouvelle sur l'autel, avec bah, toute la puissance de grâce du sacrifice du Christ. C'est pas diminué. Ça, objectivement, c'est pas diminué. C'est pour ça que j'ai toujours du mal avec des gens qui me disent, de manière un peu rapide, la messe de Paul VI est mauvaise. Maintenant, je crois qu'il faut au moins faire cette distinction-là entre le sacrement, qui lui est valide et donc qui est le sacrifice du Christ avec toutes les grâces, et puis le rite. Le rite qui, lui, entoure le sacrement pour mieux nous le faire comprendre et pour mieux disposer les fidèles à recevoir les grâces de ce sacrement. Alors là, c'est important, et je crois, oui, ma certitude et ma conclusion, c'est qu'au niveau du rite, le rite de la forme ordinaire à le rite objectif, celui du missel de 69, au-delà des abus qui ont pu être faits ailleurs, le rite de 69 a pour moi des déficiences théologiques importantes, graves parfois, qui font que certains points essentiels de compréhension de ce qu'est la messe sont passés sous silence, sont minimisés, sont tus. Voilà. Ma critique du nouveau rite, elle se fait par rapport à l'ancien rite. Ce que je trouve dommageable et terrible, c'est qu'on avait l'ancien rite qui nous expliquait des choses sur le sacrifice, sur différentes choses, et qu'on a volontairement changé ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ne sont plus là, et c'est cette disparition, cette rupture, si vous voulez, qui est, je crois, terrible, parce qu'elle veut dire quelque chose. On aurait eu la messe du temps de Jésus, du premier temps de l'Église, elle n'était pas développée comme l'est la messe tridentine. Elle n'avait pas toutes ses prières, elle était beaucoup plus sobre en elle-même. Mais je ne la mets pas du tout sur le même plan que le nouveau rite qui, lui, arrive après 2000 ans de développement théologique de la messe, d'explicitation et de tradition de l'Église. Et cette volonté de vouloir revenir, c'était ça l'un des grands axes de la réforme, de vouloir revenir à la messe telle qu'elle a été célébrée au premier temps, eh bien, en fait, ça a fait que tout ce qui a été développé en termes de compréhension des grands points théologiques de la messe sont tus, sont minimisés, et au point qu'on en croit, peut-être que c'est plus important de croire en ça maintenant. Et donc, oui, ça touche la foi des fidèles. Et je crois que le rite en lui-même parle sur la foi, exprime quelque chose de la foi, et peut avoir des conséquences sur la foi. Et les points principaux qui me semblaient importants à noter, que j'espère vous voyez maintenant peut-être plus clairement, c'est les suivants. Il y a une diminution, à mon avis, du sens de l'aspect expiatoire, ça veut dire le sacrifice offert pour les péchés, pas simplement pour la gloire de Dieu. Hein. Que sacrifice pour la gloire de Dieu, à la limite, les protestants seraient peut-être presque d'accord avec ça. Mais c'est l'idée que c'est un sacrifice pour les péchés. Ça veut dire qu'on est pécheur, c'est-à-dire qu'on est foutu sans la messe, si vous voulez. Et ça, cette idée de « je suis un pécheur et j'ai besoin de la messe pour être sauvé », elle est moins bien exprimée, la mention au péché est moins souvent là. Il y a des prières qui parlaient du péché qui ont disparu. Je pense à la dernière prière du missel, hein, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui n'est plus là, et notamment des prières de l'offertoire qui développaient beaucoup cet aspect de péché et qui ne sont plus là, tout simplement. Et donc, bah, du coup, on les a enlevées, on les a supprimées, ces prières qui développaient le sens du péché, de l'expiation. Ça encourage une diminution de l'aspect sacrificiel, je crois. Hein, j'ai beaucoup parlé de la réduction de l'offertoire. La définition de la nouvelle messe telle qu'elle est dans la présentation du missel, hein, qui dans sa première mouture ne parlait même pas du sacrifice. Et puis cette insistance permanente sur la table et le repas au détriment de l'esprit du sacrifice. Attention, je dis diminution, je ne dis pas disparition, faites attention à ça. Le terme sacrifice est toujours là dans la nouvelle messe. On peut toujours y voir un sacrifice. C'est toujours un sacrifice si elle est valide, hein, on est bien d'accord. Mais c'est tout ce qui avait été développé autour pour bien nous faire rentrer dans cet esprit sacrificiel qui a été diminué. Une autre diminution, c'est le rôle distinct du prêtre par rapport au fidèle, sa sacralité, son rôle de représentant du Christ, à travers deux choses notamment, le fait qu'il confesse ses péchés en même temps que les fidèles et qu'il communie en même temps que les fidèles, on avait parlé la dernière fois, ces choses-là amènent à une confusion entre le prêtre et les fidèles, et ça a été accompagné par une réflexion théologique entre la confusion entre sacerdoce ministériel et sacerdoce commun des fidèles. Certains ont même dit que dans les premiers temps de l'Église, il n'y avait pas de prêtre, que les Eucharisties étaient célébrées par les laïcs dans leur maison. Et que le sacerdoce, c'est une institution plus récente. Et ça, pour moi, c'est des choses qui sont passées, qui ont essayé de passer dans la réforme du rite, en tout cas, d'une certaine manière, avec une désacralisation de la personne du prêtre. Et puis, un autre point important, c'était, j'en ai beaucoup évoqué, la diminution des gestes de respect envers la présence réelle. Il y a beaucoup de choses qui étaient obligatoires auparavant et qui sont aujourd'hui facultatifs, en plus de la communion dans la main, mais qui est un sujet à part, les génuflexions, dont le nombre est réduit à 3 pour le prêtre célébrant, contre les, je ne sais combien, 30 et 33 de la messe traditionnelle, à une pour l'assistance, une génuflexion, la purification des doigts du prêtre au-dessus du calice et dans le calice, qui est facultative, la préservation de tout contact profane des doigts, il ne serre plus les doigts, c'est plus obligatoire, la purification des vases sacrés qui peut être fait plus tard, hors du corporal, la pâle, la dorure intérieure des vases sacrés qui n'est plus absolument obligatoire, la consécration de l'autel mobile, et j'en passe, des choses qui étaient là et qu'on a enlevées volontairement, eh ben, ça dit quelque chose, je suis désolé, ça dit quelque chose de... On veut faire passer... En tout cas, le fidèle le reçoit comme ça. Ces choses-là qu'on faisait avant pour respect pour l'Eucharistie ne sont pas si importantes. Et ça, c'est un thème essentiel, me semble-t-il. La disparition du latin, j'en ai déjà parlé, cette langue sacrée pour s'adresser à Dieu, qui me semble une calamité. On a besoin du latin. Sans le latin, la messe nous emmerde, comme disait un chanteur. Quelques remarques en passant aussi, hein, auxquelles on ne fait pas attention, mais il n'y a plus de prière adressée à la Trinité dans le nouveau rite. Il n'y a plus que la préface de la Trinité une fois par an. Les deux prières, Suscipe Santa Trinitas et Placiat Tibi Santa Trinitas, qui s'adressaient à la Trinité pour nous rappeler que c'était pas simplement que le sacrifice du Christ, mais c'était aussi notre sacrifice adressé à la Trinité entière, ont disparu. La diminution de l'évocation des saints et de la Vierge Marie également, qui sont moins souvent cités. Et puis cette nouveauté liturgique qui fait que tout est ad libitum, ça veut dire on peut choisir un peu ce qu'on veut faire durant notre messe, fait que bah, souvent la prière eucharistique numéro 1, qui est le canon romain, n'est pas souvent utilisée, qui crée des différences énormes entre les messes, hein, chaque prêtre construit un peu sa liturgie, et ça, c'est un esprit qui n'est pas traditionnel. La liturgie, je la reçois, je ne la fabrique pas. Et donner au prêtre un tel pouvoir pour, selon l'humeur du moment, selon l'idée qu'il a eue de mettre ça ou ça ou ça, bah c'est contribuer à faire de la liturgie quelque chose de privé, quelque chose de personnel, alors que c'est un don que l'Église nous donne. Et puis l'appauvrissement des traditions liturgiques, gestes, une réflexion, tout ça j'en ai parlé, la semaine sainte dans le nouveau rite, on dit souvent une pauvreté, hein, une pauvreté dans le nouveau rite. On a enlevé beaucoup de choses qui étaient très sensibles et on a oublié que l'homme, je crois qu'on a oublié que l'homme était âme et corps et qu'on n'est pas simplement des âmes qui se baladent, on a des corps et on a besoin de choses sensibles, visibles, visuelles pour nous accrocher à la foi et tout cela a un peu disparu. Les lignes profondes que j'y vois moi, c'était l'idée de revenir à la façon dont on célébrait la messe dans les premiers temps et je vous ai dit pourquoi ben, ce n'était pas nécessairement une bonne chose. Parce que ça veut dire que tout le développement intellectuel, théologique, spirituel de l'Église au cours des siècles bah, est reconnu comme nul et comme ne servant à rien. Ça met quand même en cause beaucoup de choses de ce développement traditionnel. Et puis une idée œcuménique hein, avouée, constatée ensuite par les protestants qui ont dit bah, « cette messe, nous sommes beaucoup plus conciliables avec notre théologie ». De se rapprocher avec les protestants en diminuant l'aspect sacrificiel qui avait été rajouté par le Concile de Trente et qui était considéré comme une division, les mentions de la Vierge Marie trop fréquentes, l'aspect du sacerdoce trop distinct du sacerdoce commun des fidèles, chez les protestants il n'y a pas de sacerdoce sacramentel, ces thèmes-là, évidemment, certains protestants ont reconnu que bah, ils se reconnaissaient beaucoup plus dans la nouvelle messe, et qu'il n'y avait plus beaucoup de différence. Hein. Max Turian qui disait que lui, il n'hésiterait pas à la célébrer. Donc, voilà. Et l'idée de la désacralisation, vous avez évoqué un livre du professeur Besançon, professeur à la Cato, hein, qui disait « La messe sans sacré ni secret », et l'idée que le sacré, le thème du sacré, est une idée païenne, et qui ne doit pas se retrouver dans le christianisme, et donc on le fait disparaître. Ça, je pense, c'est une erreur dramatique, une erreur anthropologique grave. L'homme a besoin du sacré, c'est ça qui le connecte avec l'invisible, avec Dieu, qui le sépare aussi de Dieu tout en l'unissant avec lui. Cette distinction du sacré et du profane, elle est fondamentale, et on a volontairement cherché à l'enlever, c'est avoué, c'est réfléchi, ça a des origines dans la Seconde Guerre mondiale, dans le protestantisme, puis dans le catholicisme, et ça, je crois que ça ne va pas du tout. Et on nous le dit, hein, les gens qui reviennent à la messe traditionnelle, C'est souvent parce que bah, là, il y a du sacré. Ils en ont besoin. Et c'est normal qu'ils en aient besoin parce qu'ils sont humains. Donc moi, je trouve qu'il y a... Je pense, chez les intellectuels qui ont fabriqué ce nouveau rite, parce qu'il est fabriqué de toutes pièces, une incompréhension de ce qu'est l'homme et de ce dont il a besoin, de par sa nature charnelle et sensible, pour s'élever vers le divin. Et que dans la liturgie traditionnelle, on retrouve ces choses-là. Je ne dis pas que c'est parfait, le rite tradit, hein, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui m'énervent dans le rite traditionnel, j'en ai parlé de certains, parce que c'est un rite humain, c'est humain tout ça, c'est des réflexions humaines pour mieux manifester un mystère indicible, mais je crois que, en 2000 ans de tradition, bah, on a réussi à dire des choses, et décider du jour au lendemain que bah, ces 2000 ans de tradition ne servent à rien et qu'on revient au temps des premiers chrétiens, bah, je trouve que c'est dommage, et même très dommage. Et puis aussi, une idée très très simple, le fait d'avoir changé aussi radicalement la façon de prier des gens, du jour au lendemain, on leur demande de prier différemment, et avec une différence quand même énorme, bah c'est très mauvais. C'est très mauvais, on en a perdu beaucoup, on a perdu beaucoup de fidèles comme ça, parce que les fidèles, leur relation à Dieu, elle est fabriquée par leur rite, et quand on change leur rite, c'est le bon Dieu qui leur échappe. Et ça, on a beaucoup de témoignages de gens qui ont perdu la foi au moment de la réforme et qui ont arrêté de pratiquer parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans leurs habitudes de prière. Et ça c'est dangereux. Et c'est un message pour aujourd'hui. Attention à ne pas refaire la même chose. Et à ne pas se dire, on va nous transformer tout ça en un troisième rite inventé pour, et là, tout le monde devra le prendre. Non, ben, on ne change pas la façon de prier des gens, en tout cas de manière aussi violente. La tradition, elle a toujours évolué. Elle n'est jamais restée fixe, ça c'est sûr, mais elle a toujours évolué à vitesse de l'Église, et c'est lent, la vitesse de l'Église. Et là, on a eu un coup d'accélérateur qui fait qu'on a perdu énormément de monde. Et ça ne va pas. Voilà, ça c'était mon petit résumé de tout.